Venir. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur ce que révèle l'épidémie d'Ebola qui sévit depuis plusieurs mois en Afrique. Nous retrouvons nos invités par téléphone, Christian Bouquet, professeur émérite de géographie politique à l'Université Bordeaux 3 et au laboratoire Les Afriques dans le Monde. Benoît Miribel, directeur général de la Fondation Mérieux, dont le laboratoire a été le premier à poser le diagnostic du virus en mars dernier. Et Ronnie Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières, l'une des très rares organisations non gouvernementales à être présente sur le terrain. Benoît Miribel, où en est-on sur le plan scientifique, sur le plan médical de la gestion donc, du virus Ebola? Vers quoi s'achemine-t-on? Est-ce qu'on a l'espoir, et je sais qu'il y a des essais qui ont été faits récemment, de médicaments et quid d'un éventuel vaccin? Et français et américains travaillent-ils sur les mêmes routes, j'ai envie de dire, sur cette question? Benoît Miribel.
Oui, donc c'est une question... que l'actualité accélère, donc comme toujours face à ces enjeux-là, il y a bien sûr des fonds supplémentaires qui permettent d'avancer sur cette question du vaccin possible, parce que je pense des solutions qui vont aboutir. Donc il ne s'agit pas pour moi de citer telle ou telle marque ou entreprise en cours. Vous posez la question de collaboration. De ce point de vue-là, oui, ça s'accélère. D'ailleurs, il y aura à la fin du mois une réunion à Montréal du réseau européen américain et nous signons avec le ministère de la Santé chinois, le CDC chinois, avec l'Institut Pasteur, l'INSERM et la Fondation Mérieux, un accord par rapport au fièvre hémorragique virale dont fait partie Ebola, et plus largement pour une collaboration future sur le futur P4 de Wuhan en Chine. Donc on voit qu'au niveau international, il y a effectivement un choix de réponse. Alors il y a un vaccin particulier canadien qui commence donc à avancer sur l'Afrique de l'Ouest. Bon, après, il y a les sérothérapies, Ronnie Moran pourrait expliquer ça mieux que moi, les antiviraux aussi, qui peuvent être des solutions. Mais je reviens sur mon point de départ, parce que si nous aurons un vaccin ou un médicament, nous aurons besoin de toute façon d'un système de santé adéquat pour le délivrer. Et encore une fois, dans le cas de cette propagation forte d'Ebola, c'est bien la difficulté de pouvoir maîtriser, bien sûr diagnostiquer rapidement. Et là, on le voit au niveau des labos, les gens ne sont pas formés, n'ont pas d'équipement, notamment en Guinée. Liberia, c'est pareil. Nous étions sur, juste avant cette crise Ebola, sur le laboratoire de Kenema en Sierra Leone, un laboratoire de niveau 3, pour qu'il soit réhabilité, et nous avons donné notre accord. Donc j'insiste vraiment sur tous ces à côté-là, parce qu'on le sait, on a aussi d'autres maladies avec des solutions, des vaccins ou parfois des traitements, mais qui ne sont pas le point le plus faible. Donc c'est de relativiser pour moi, donc je n'irai pas sur dire, ça y est, il y a la solution miracle, même si nous avions, et on ne l'aura pas dans plusieurs mois, personne n'aura la solution miracle, le vaccin. Donc d'ici ces plusieurs mois, on aura franchi le pic d'après les estimations des experts, des 20 000, malheureusement les 20 000 décès, avant au moins d'avoir le pic. Donc c'est bien le contrôle de la population, la mise en quarantaine, qui est l'élément indispensable et qui a manqué depuis le début, avec aussi la difficulté de diagnostiquer les mauvais équipements, où on balade des échantillons, entre guillemets, qui sont pas transportés correctement, sur des mobilettes, des gens non protégés. Il y a tout ce phénomène-là, et j'insiste volontairement au regard des aspects vaccins ou médicaments dont on n'aura pas de nouvelles concrètes avant plusieurs mois, et on revient donc sur la responsabilité des gouvernements, avec les partenaires internationaux qui ont des savoir-faire, de renforcer ces capacités-là pour, disons, protéger ces populations, avec aussi en tête, et c'était une autre question, mais tous les effets secondaires ou les effets à côté de cet impact, de cette épidémie, que ce soit par exemple sur la sécurité alimentaire, contrôler les frontières, ça a un impact aussi sur la circulation économique, mais c'est peut-être une autre question.
Effectivement, la question de la sécurité alimentaire était un aspect que je souhaitais qu'on aborde un tout petit peu plus tard dans l'émission. Ronnie Broman, je me tourne vers vous. Est-ce que finalement, il fallait déclarer dès le mois de mars l'épidémie crise humanitaire? Et j'aimerais qu'on dise quelques mots sur l'Organisation mondiale de la santé. On évoquait les budgets des gouvernements concernés par le virus Ebola, Guinée, Sierra Leone, etc., qui ont des moyens largement insuffisants. L'OMS aussi a vu ses budgets décroître. Est-ce que c'est là la responsabilité de son manque de réactivité et de rapidité dans la prise de conscience de la tragédie Ebola, finalement?
Oui, certainement. Le budget accordé à l'OMS, c'est-à-dire les contributions des États membres, diminue d'année en année, exactement dans la même dynamique négative que celle que nous évoquions tout à l'heure au sujet de la déliquescence des États. Le public est en quelque sorte disqualifiée au profit du privé. Et l'une des questions qui se pose est de savoir qui décide à l'OMS. On l'a vu, par exemple, au moment de la grippe dite porcine, la grippe A de 2009, lorsque, après une réaction précoce et d'ailleurs tout à fait adaptée, tout à fait pertinente, de l'OMS face à l'épidémie qui se développait à Mexico au printemps 2009, on a commencé à battre le tambour, à sonner les grands moments de mobilisation. Et finalement, après une réaction tout à fait adaptée d'inquiétude et de nécessité de surveillance lorsque les premiers cas se sont déclarés, il aurait été sage de constater que l'épidémie de grippe A était révolue, ou en tout cas que c'était, comme certains l'ont dit, une grippette. Elle était très contagieuse, mais elle n'était pas très virulente. Donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Bien, à la place de ça, on a vu se développer une surréaction dont plusieurs articles ont montré que c'était les labos qui avaient orchestré, les grandes compagnies pharmaceutiques qui avaient orchestré cette surréaction, et tout cela s'étant soldé par 10 milliards de dollars de vaccins qui étaient tout à fait inutiles, des distributions massives de Tamiflu. Et en France, nous nous sommes particulièrement illustrés dans cette surréaction en dépensant près d'un milliard d'euros pour rien, littéralement.
Donc
pour rien.
Donc de surréaction, on passe à sous-réaction.
Voilà, exactement. Et là, il s'agit de renouer, là, je ne suis plus dans la dénonciation ou l'accusation, mais dans la mise en évidence d'une certaine complexité. Il y a une surréaction qui était intéressée, qui était liée à cet investissement de l'OMS par les laboratoires, mais après cette surréaction, la tentation, c'est de dire, oh là là, n'allons pas trop vite. D'autant que nous avons, ça a été rappelé tout à l'heure, un certain nombre d'enjeux majeurs, que ce soit l'antibiorésistance, les tuberculoses multirésistantes, le sida qui est loin d'être réglé, le paludisme, bref. Enfin, il y a un certain nombre de priorités sanitaires qui sont là, sur lesquelles l'OMS travaille avec des moyens déjà insuffisants. Donc, il faut être à la fois critique et compréhensif. Mmh. Après une surréaction, il est un peu naturel que une plus grande prudence intervienne. Donc, sans doute qu'on ne pouvait pas attendre une réaction en temps réel, que en mars, quand les premiers cas arrivent, on a tendance à voir le schéma que l'on connaît se reproduire, à savoir des épidémies qui flambent comme des feux de forêt, qui s'auto-consument, si l'on veut, parce que le modèle habituel de l'épidémie, en particulier d'Ebola, mais également celles qui ont été citées, de Marbourg, de Lassa, etc., ces épidémies détruisent très rapidement leurs vecteurs, et dans le cadre de leur épidémiologie particulière, c'est-à-dire par exemple des virus absorbés à partir de chauves-souris qui vivent dans la nature, elles atteignent des populations isolées et ne s'étendent pas. Aujourd'hui, on a un changement de régime épidémique et ce changement de régime n'était pas sans doute prévisible dès le début. Donc on comprend qu'il y a une certaine inertie, on est plus intelligent après. Rétrospectivement, on peut dire ce qui aurait dû être fait dès le mois de mars. C'est lorsque il est devenu clair, c'est-à-dire à l'été, selon moi, lorsqu'il est devenu clair que on avait une ancienne épidémie avec un nouveau régime de transmission, que là, il aurait fallu réagir et déclarer un état d'exception, un état de crise. Certainement pas un état de crise humanitaire, d'ailleurs, je récuse le terme de crise humanitaire, mais un état de crise, un état d'exception, nécessitant donc des mesures exceptionnelles qui sont aujourd'hui en train d'être prises, mais qui auraient été plus adaptées, disons, si elles avaient été prises 2 mois plus tôt.
Alors, je m'adresse à l'ancien ou au président de Médecins Sans Frontières que vous avez été, René Broman. Quelques mots sur MSF, rapidement, après ça, on avancera dans le débat. Donc, MSF qui est présent sur place depuis longtemps, qui a alerté, frustration et beaucoup de colère, j'imagine, au sein de MSF.
Oui, bien sûr, parce qu'on a vu sous nos yeux se développer cette épidémie en tentant de sonner l'alarme. Et sans être entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, les premières réactions étaient « mais vous exagérez, ça n'est pas si grave ». Parfois même c'était plus pervers, vous faites votre publicité là-dessus. Et on voit les partenaires habituels qui se dérobent, l'OMS en l'occurrence. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle MSF a, comment dire, franchi une sorte de seuil en faisant appel au Conseil de sécurité, aux grandes puissances, du simple fait qu'elles étaient équipées en matière de bioterrorisme, donc de danger viral, hein, c'est pas le bioterrorisme en l'occurrence qui est en question, mais c'est le savoir-faire face à des dangers biologiques. Et il est temps de rappeler, peut-être à ce stade, que le Conseil de sécurité n'est pas un Conseil de sécurité militaire. Les questions de sécurité sanitaire sont absolument primordiaux. D'ailleurs, si on remonte dans l'histoire, on s'aperçoit que la première conférence diplomatique internationale, qui a eu lieu en 1851 à Paris, s'est intéressée à quoi ? au choléra. C'était l'épidémie de choléra qui venait de frapper l'Europe, qui était mise en rapport avec, disons, une sorte de premier grand mouvement de circulation, en l'occurrence ça venait plutôt d'Europe centrale. C'est cette épidémie de choléra qui a induit la nécessité de discuter ce qui n'a pas donné de conséquences, parce qu'on ne savait pas quelles étaient les modalités de transmission du choléra. Donc cette conférence n'a rien donné, elle a été absolument stérile. Mais son existence même nous rappelle que les premières conférences de sécurité internationale, c'est sur des questions d'épidémie qu'elles se déroulent. Et c'est l'occasion de rappeler que le Conseil de sécurité, c'est pas seulement des interventions militaires, c'est aussi des questions de sécurité sanitaire qui, même si elles sont circonscrites, car c'est avant tout une crise ouest-africaine, ont nécessairement, par les répercussions économiques, sociales, migratoires qu'elles entraînent, une dimension globale.
Alors le Conseil de sécurité de l'ONU que vous évoquiez à l'instant, Ronnie Bourman, il a justement cette semaine parlé de menace pour la paix mondiale, parlant donc du virus Ebola. Ça me permet de me tourner vers vous, Christian Bouquet, pour évoquer les conséquences finalement à craindre sur le plan économique et humain, bien évidemment, de ce virus Ebola. Alors, un peu plus tôt dans l'émission, on a parlé de menaces, de crise alimentaire. Bon, c'est vrai que les récoltes sont perturbées et que ça fait craindre une flambée des prix alimentaires d'une part, la baisse des produits intérieurs bruts dans les pays concernés. Le Nigeria, on peut le rappeler, qui est le premier producteur de pétrole du continent et qui risque de voir les compagnies pétrolières évacuer leur personnel. Tout cela va faire bondir la pauvreté, augmenter l'insécurité alimentaire, sans parler aussi de l'absentéisme des entreprises étrangères. Bref, un tsunami.
Ah oui, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest en général, et en particulier pour ces trois pays quand même, parce qu'on est en train de les paralyser de manière artificielle. Parmi les mesures qui sont recommandées, il y a eu, alors ça fait un peu sourire les géographes, mais la fermeture des frontières. Alors on sait bien ce que sont ces frontières, mais en même temps, si elles sont poreuses, il n'empêche qu'on a ralenti tous les mouvements qui franchissaient ces frontières, en particulier les mouvements de ravitaillement, les échanges entre les marchés. Les entreprises, comme vous le disiez à propos du Nigeria, tournent au ralenti parce qu'une partie des personnels sont rappelés. Alors il s'agit souvent des expatriés, mais les personnels locaux également ne se rendent pas forcément au travail. Le système bancaire lui-même est paralysé. Le système de transfert d'argent, qui est très important dans ces pays très pauvres, qui dépendent beaucoup des diasporas, ce système est également paralysé. C'est vrai qu'on va avoir une crise économique accrue, parce que ce sont déjà des pays pauvres, au moins dans ces trois pays. Alors c'est sans doute pour ça que la communauté internationale, je ne pourrais pas être cynique, hein, pas seulement pour des raisons économiques, mais quand même beaucoup pour des raisons économiques, commence enfin à se réveiller. Les États-Unis, vous en avez parlé, on peut d'ailleurs noter que les États-Unis envoient 3000 militaires, ce qui paraît étonnant, mais qui n'est pas une première. Ils l'avaient déjà fait au moment du séisme à Haïti, hein, ils avaient pris le contrôle du pays. Ce qui montre bien, par défaut, ce problème de déliquescence des États. Ils vont essayer de remettre un petit peu d'ordre, j'imagine, dans un pays qui leur est cher, puisqu'ils en sont en partie les créateurs. Plus l'argent qui vient d'être débloqué par le Conseil de sécurité. Et on va essayer, en effet, de faire redémarrer ces pays, de les sortir de la léthargie. Ça va tout de même avoir, je crois, des conséquences assez graves. Bon, les économistes parlent de 2 à 3 points de PIB perdus. Alors je sais bien, Ronnie Bourman ne sait comme moi que des points de PIB, ça n'a aucun sens pour les populations d'en bas. Hein. Mais tout de même, ça fait parfois réfléchir les grands décideurs de cette planète.
Alors, pour aller plus loin, et notamment sur ce que révèle de la solidarité africaine ce virus Ebola, on a parlé avec Ronnie Bourman de l'Organisation mondiale de la santé. L'Union africaine, Christian Bouquet, son action a été jugée très insuffisante. Elle a, c'est vrai, agi plutôt à minima, hein, avec un budget Ebola de 25 millions de dollars. Alors, voilà, l'Union africaine, pour mémoire, elle représente 50 pays africains. La Banque africaine de développement a offert 140 millions, les États-Unis 60, les Européens 120. Bon, on voit finalement une Union africaine qui tarde elle aussi à se mobiliser sur le problème de l'Afrique de l'Ouest.
Oui, oui, l'Union africaine n'a proposé pour le moment que 25 millions de dollars, ce qui est ridiculement bas, mais surtout l'Union africaine a été très peu présente, hein, comme disait Jeune Afrique dans sa livraison de cette semaine. À quoi sert Madame Zuma, qui a mis beaucoup de temps à s'intéresser au sujet et à organiser une réunion de mobilisation pour essayer de susciter des dons. En plus, elle s'est manifestée par des injonctions qui peuvent passer pour paradoxales, comme « rouvrez vos frontières », qui n'ont pas été d'ailleurs suivies des faits. Le Sénégal a refusé de rouvrir ses frontières. Bref, c'est vrai que le mouvement de solidarité que l'on pouvait attendre des pays africains a été très en dessous de ce qu'on aurait pu espérer. Et c'est dommage parce que tout de même autour des trois pays dont nous parlons, il y en a quelques-uns qui sont directement menacés. Je pense en particulier à la Côte d'Ivoire, l'un des comtés du Libéria touché par l'épidémie est frontalier de la Côte d'Ivoire. Et donc l'économie ivoirienne et l'économie sénégalaise et les économies des pays frontaliers sont également menacées.
Alors, le temps tourne, malheureusement, on va avancer. Moi, en annonçant quelques chiffres, on évoquait l'envoi par les Américains, ça a été annoncé cette semaine par le président Obama, de 3000 militaires sur place, les Américains qui vont aussi envoyer des médecins. Et puis, on a vu que Cuba envoyait, elle aussi, des médecins, ainsi que la Chine, 59 personnes en Sierra Leone. Donc, on voit bien une mobilisation internationale avec chacun des pays qui ont des intérêts en Afrique se mobiliser aussi. Benoît Miribel, quelques mots peut-être de conclusion sur les perspectives de contenir le virus Ebola dans un avenir plus ou moins proche ?
Écoutez, c'est indéniable qu'avec l'arrivée des moyens militaires qui étaient souhaités, comme l'a dit Ronnie Broman par MSF, mais Peter Piot aussi la semaine dernière avait appelé, donc Peter Piot c'est le responsable de la London School, qui était très présent aussi dans le combat contre le HIV, avait appelé en disant il faut quasiment des moyens militaires. En Sierra Leone, on a vu des gens qui soit se réfugiaient en ville en disant on va me soigner, soit dans la campagne, dans la brousse, en disant c'est la médecine traditionnelle qui va me sauver. Et il fallait donc marquer au doigt les personnes pour qu'ils attendent les résultats de leur prélèvement et voir si j'étais ou pas infecté par Ebola. Donc il y a toute une logistique aussi pour contenir encore une fois la population qui va certainement être facilitée pour ça. Maintenant, les spécialistes américains qui arrivent ou d'autres pays ne vont pas peut-être pas faire les formations. Donc il y a le jour d'après. Et le jour d'après, ça va être quid du transfert des savoirs, des connaissances et je dirais d'un travail mutuel, puisqu'encore une fois, face à ces épidémies qui réémergent et qui vont s'accélérer dans le contexte que l'on a déjà évoqué tout à l'heure, globalement, c'est une chaîne de compétences. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. Rappelons que le règlement sanitaire international de l'OMS, c'est 2005, et que beaucoup de pays n'ont pas signé. Et c'est des obligations, justement, face aux épidémies. Donc, encore une fois, heureusement qu'il y a des structures comme MSF, des organisations comme MSF qui sont réactives et qui arrivent à faire le travail qui est fait, mais dont on voit les limites par rapport à l'ampleur des besoins. Maintenant, des interventions militaires étrangères arrivent, mais ça repose pour moi la question de ces capacités locales, de qui sont aux commandes dans ces ministères de la Santé, quelle est leur volonté politique, en partenariat, parce que c'est une chaîne de solidarité qui doit s'organiser, et de compétences, une chaîne de compétences. Et sur la partie que nous suivons de près, qui est la partie du diagnostic biologique, des laboratoires, encore à l'instant où on parle en Sierra Leone, les besoins sont énormes, énormes de ce côté-là, et ça prend du temps de former des personnes, et sans passer par là, on n'y arrivera pas.
Et si j'ai bien compris, Ronnie Broman, peut-être un dernier mot, la crainte, c'est aussi que les aides partent un petit peu dans toutes les directions. En trois mots.
Oui, en trois mots, bien entendu, il y a un problème de coordination, il est très important, et il est d'autant plus important que nous ne savons pas si nous sommes au pic de l'épidémie. Sommes-nous aujourd'hui au sommet face à une redescente comme semble le penser l'OMS ? C'est possible, ça ne peut pas être exclu, mais l'inverse ne peut pas être exclu non plus. Nous sommes peut-être actuellement encore dans une pente qui est croissante. Il faut donc aussi se préparer à un effort de longue durée.
Nous en reparlerons. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Christian Bouquet, professeur émérite de géographie politique à l'Université Bordeaux 3 et au laboratoire Les Afriques dans le Monde, rattaché au CNRS. Benoît Miribel, directeur général de la Fondation Mérieux. Et Ronnie Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières et professeur associé à Sciences Po Paris. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, ou si votre connexion est difficile sur m.rfi.fr, qui est la version simplifiée de notre site, la version mobile. Également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte avec la contribution de la documentation. Demain, Géopolitique sera consacrée au renseignement. À demain.